Ce n'est qu'un camarade qui vient dire ce qu'il a perçu, connu d'un camarade qu'il aimait. Xavier Salentin, mon camarade, était un penseur. Inlassablement, dès qu'il eut l'âge d'un moraliste, il a cherché à trouver par lui-même le sens de la vie. Réunis ici pour lui rendre hommage, nous partageons le souvenir de son ardeur intellectuelle et de son érudition. Le sens, on le cherche par deux voies, celle de la logique et celle de la physique de la nature. Il a toujours marché sur l'une et sur l'autre en même temps. La logique, quand je suis allé à Bénin en 85 avec en poche la traduction de Demierville des entretiens de Lindsay, ce qui débute par un tétralème indien qui met en rancard le tiers exclu dont parlait le colonel Lefebvre. Vous savez, au lieu de « c'est oui » ou « c'est non », il y a quatre cas. Ou bien la chose existe, ou bien elle n'existe pas, ou bien il faut admettre qu'elle existe mais qu'en même temps elle n'existe pas, ou bien il est à la fois vrai et faux de dire qu'elle existe et qu'en même temps elle n'existe pas. C'est simple. Il y avait de quoi ravir complètement l'attention de Xavier. Mais je n'en usais qu'à la veille de mon retour, car nous aurions sacrifié tous les autres sujets de conversation et peut-être oublié de dormir. En tout cas, les leçons de l'INSEE renforçaient la logique trine de Xavier. Par contre, nous étions confinés en pensée moniste, confusion de l'âme et du corps, avec cette sorte de bouddhistes qui se disent exaspérés par la théorie des apparences que professent les autres, ceux qui déclarent que l'esprit fait croire aux choses. L'INSEE anticipe le zen. On fouette les débutants qui s'oublient en disant blanc et noir, jour et nuit, en somme tout ce qui s'oppose de par deux, et on les a anéantis par le cri du tigre. Or, les Salentins ne sont pas monistes. Ils croient à l'âme. Pas plus que Descartes, ils ne diraient que l'âme fait partie du corps. La logique trine à Xavier s'utilise pour remonter au principe divin par l'esprit, sans affecter l'indépendance de l'esprit. Question de l'âme. Je me souviens qu'une de nos conversations, où, pour finir, on ne pouvait attribuer qu'aux néoplatoniciens d'Alexandrie les années 80 de l'ère chrétienne, l'évangile de Saint Jean et le dernier évangile de la messe des catholiques romains, Xavier était d'accord. Sa femme Anne s'échauffa et lui fit gentiment ce reproche. « Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» À l'école navale de Clairac, nous n'étions pas du même groupe, lui et moi. Il était chef de poste, très bien considéré par les hommes dévoués qui nous encadraient à notre niveau, les LOS. L'état-major était installé à Albéi. Nous, les élèves, vivions dans la propriété de Castille, sur les hauteurs de la route de Tonnins. Mieux qu'un autre, il fut informé des désaccords au sein de l'état-major et des intrigues pour la fuite au maquis. Xavier est celui d'entre nous qui lança le cri de « Caïman !» que nous exécutâmes d'un seul bloc quand l'officier de garde voulait nous faire expier l'évasion d'un de nos camarades, ordonnant un rassemblement au pas gymnastique dans la cour à 6h du matin pour nous y faire tourner en rond. Nous renversâmes tout net le sens de la course. Au cri que poussa Xavier, nous nous mîmes à tourner en sens inverse, ce qui est la manifestation de la révolte des élèves. Plus tard, en première ligne sur le front de la Seudre, je me souviens qu'il fut très estimé. N'est-ce pas Xavier lui-même que Gardère faisait conduire une attaque au mortier sur la Tremblade quand Aurel Meunier, qui était près de lui, fut recherché pour recevoir la croix de guerre au bataillon et se cacha. Aurel voulait marquer pour le commandement le fait qu'on nous employait mal à la guerre. Je crois que nous avons été, de toutes les promotions de l'école navale, la plus insubordonnée. Un peu plus tard, nous sûmes qu'il avait reçu des missions peu communes, île grecque d'Anatolie, évêché de Fadiem, dont il fallait organiser l'autodéfense. Moi, j'étais autrement impressionné par les idées qu'il essayait d'introduire pour que notre mère, la marine, s'aperçoive que ses règlements étaient trop vieux. Une des récompenses que les officiers offraient aux hommes d'équipage méritants était encore un quart de vin, en plus de la nourriture, le quart supplémentaire qu'on appelait la double. Xavier Salentin écrivit dans un bulletin de la marine qu'un marin pêcheur recruté comme gabier s'en réjouirait peut-être, mais que pour un étudiant diplômé faisant son service comme radariste, il était vexant d'être remercié par un coup à boire. Son esprit était toujours en course, son esprit de synthèse surtout enviable. Quand il prépara les 12 dialogues sur la défense, il organisa des séances de discussion auxquelles il invitait des experts causeurs pour qu'ils exposent à ses discutants quelles idées ils avaient sur les changements de forme de la guerre que, déjà, entraînaient les armes nucléaires de la guerre froide. Ils étaient bureaucrates, ingénieurs, philosophes et savants, sans compter des hommes d'affaires plutôt célèbres. Les accouchements d'idées n'étaient pas toujours gratifiants, mais le meneur de jeu résumait toujours talentueusement ce qu'ils avaient voulu savoir dire. Il avait l'esprit scientifique et il instruisait les problèmes avec des connaissances à jour. Jamais il ne laissa figer ses connaissances sur le second terrain de la recherche du sens, celui de la physique, jugeant que la cause profonde qui fait que le monde est vivant devrait pouvoir se lire dans le grain de matière. J'allais à Béna pour parler avec Glavier de la création du monde, mais je me suis trouvé là-bas dans un endroit si fécond pour travailler que je commençais à écrire ma tranche de l'histoire du Japon. Je me souviens que c'est là-bas que je dépouillais les premières des instructions de défense japonaises qui prirent les États-Unis comme ennemis potentiels. L'endroit pouvait être bon pour l'art aussi. Ma femme et moi y avons emmené Akiko Samejima, venue du Japon en France pour gagner son diplôme de pianiste de concert auprès des professeurs élèves de Cortot. À sa première nuit à Béna, elle ne put s'endormir. Le ciel est tellement beau que j'en étais saisi. Elle avait envie d'y retourner et, pour madame ayant organisé un concours de pianiste, elle en remporta facilement le premier prix en 1989. Le soir de ce jour-là, Xavier fit installer le piano de Béna dehors pour qu'Akiko puisse jouer sous le ciel étoilé. Un vers oublié de Rimbaud célèbre le piano, madame et la montagne, mais le poète visionnaire a mal situé l'événement. Madame fit établir un piano dans les Alpes, dit ce vers singulier. Savait-il où régnait le puissant Salentin ?